Contre-culture et communication. Romain Pigenel, bonjour.
Bonjour.
Romain Pigenel, vous êtes ancien numéro 2 du service d'information du gouvernement, SIG. Ancien conseiller de François Hollande. Vous êtes aujourd'hui directeur stratégie et communication de l'Institut du monde arabe. Je vous reçois pour parler contre-culture et communication. Vous êtes le démon du clavier, hein, donc sur Medium, des billets sous...
Quand j'ai le temps, rarement
Romain
malheureusement.
Romain Pigenel, que j'invite à lire. Je prends trois exemples. Gilets jaunes, crise d'État, démocratie virtuelle. Twitter est-il une poule? Réponse à Raphaël Enthoven. Booba versus Caris, classez-nous dans la variette. C'est votre spécialité, ça, hein, de venir sur la culture populaire, la contre-culture, l'articulation avec les sujets de communication.
Oui, tout à fait, et j'y crois, parce que je pense que c'est justement une des caractéristiques de l'époque, d'avoir une espèce, alors j'aime pas le mot parce qu'il porte des connotations, mais de grande moyennisation de la culture, avec... D'ailleurs, le titre de notre intervention, de notre débat, il est intéressant. Contre-culture et communication. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui quelque chose comme la contre-culture? Il faudrait déjà définir ce que c'est que la contre-culture. Ça remonte quand même à un concept qui est plutôt daté années 60-70, me semble-t-il, même si je ne suis pas un spécialiste de sociologie culturelle, et qui posait comme prémisse qu'il existe justement une culture officielle, une culture un peu normative, contre laquelle il y aurait des niches de résistance. Et je crois que, et là, ce n'est pas quelque chose vraiment original ce que je dis, on peut faire le constat aujourd'hui que cette opposition, elle n'existe plus vraiment. Où est aujourd'hui la culture officielle, celle dans laquelle on a été bercé, qu'on a appris, qui était par exemple en France, basée sur des grands auteurs, sur des références qui en prêtaient beaucoup aux humanités, aux cultures, que ce soit à la littérature classique, à la pensée grecque, romaine, etc. Je crois que ces références qui étaient auparavant un peu imposées, elles ont progressivement cédé la place à d'autres références qui venaient justement de ce qu'on appelait avant les contre-cultures. Alors, c'était quoi? C'était aussi bien les musiques contestataires, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, que ce soit le rock, le rap, et qui, auparavant, étaient quand même contingentés dans des univers très cloisonnés. D'abord, c'était des cultures qui étaient compliquées d'accès. Il fallait aller avoir accès au bon disquaire, à la bonne personne qui allait nous initier, avoir accès aux bonnes librairies, par exemple. Et quand on vivait en province, ce qui était mon cas auparavant, rien qu'arriver à rentrer dans ces cercles-là, pour accéder à ces cultures, c'était compliqué. On voit là-dessus que vraiment, un des effets de la révolution digitale, ça a été de faire casser cette barrière à l'entrée, premièrement, et puis de rendre justement tout cela beaucoup plus accessible. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple de la musique pour filer un peu la comparaison. Du moment où vous avez accès à toutes les formes justement de musique, même les plus rares, de manière illimitée et gratuite par Internet, ça a été le MP3, ça a été aujourd'hui le streaming, vous avez cette différence qui va s'effondrer, ça c'est une première chose. Et on voit, moi je suis toujours fasciné par ça, comment aujourd'hui des gamins perdus au fin fond de la province, encore une fois j'en parle pas du tout en mal, moi j'en viens, et qui auparavant, il y avait 20 ou 30 ans en arrière, auraient eu le plus grand mal à s'informer sur des niches culturelles, sur leurs origines, ils ont aujourd'hui accès, dès l'adolescence, à une masse d'informations et de culture disponible qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait à notre époque. Donc, moi, je pense que c'est une excellente chose. Ça veut dire, et on le voit bien aujourd'hui, toujours dans la musique, les jeunes artistes, alors parfois, il y a un petit côté tourné en rond, mais ils ont une culture musicale qui est bien, bien supérieure à ce qu'il y a auparavant. Donc, première condition de la contre-culture, qui est, je crois, la difficulté d'accès, arriver à rentrer dans un monde avec des codes qu'on ne comprend pas forcément, avec des matériaux auxquels on n'accède pas forcément, qu'ils soient livres, musique, etc., tout ça a explosé. D'ailleurs, certains qui l'ont bien compris, c'était les tenants de contre-culture qui étaient très discutables, que ça soit par exemple les contre-cultures liées à l'extrémisme politique, à l'extrême droite, qui a vu comment, probablement très tôt et parmi les premiers dans les années 2000, on pouvait utiliser le digital pour arriver à contourner la mainmise sur les médias, les médias qui étaient beaucoup plus limités en nombre à l'époque et qui étaient pour le coup réservés aux classes politiques et aux partis politiques dominants. Donc je pense que l'aspect matériel, sans être exagérément marxiste, c'est-à-dire vraiment l'infrastructure, elle est déterminante, les barrières à l'accès ont cédé et il y a d'abord une mise à disposition, une disponibilité qui est maximale de toutes les cultures possibles et imaginables. C'est une première chose.
Je rebondis, hein, mais c'est dans votre papier sur les gilets jaunes, vous nous dites finalement l'irruption d'un digital qui n'a jamais été aussi réel sur une scène politico-médiatique dont il révèle le caractère profondément virtuel. Ça traduit ça.
Oui, oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, j'écrivais dans un contexte qui était un peu particulier, mais cet exemple, justement, des gilets jaunes et aujourd'hui, des contestations plus globalement qu'on voit un peu partout autour de la Terre, elles sont intéressantes dans cette histoire, justement, de contre-culture. Premier élément que je signalais tout à l'heure, c'est effectivement la rupture des barrières, même vraiment très, très pratiques et matérielles, qui faisait qu'il y avait d'un côté une culture de masse disponible facilement et des contre-cultures. La deuxième rupture qu'il y a eu, c'était effectivement le verrou à l'entrée plutôt corporatiste, c'est-à-dire le fait que simplement qui détient les médias, ça explose du jour au lendemain où vous avez d'abord le câble, ça c'était il y a longtemps, et le lendemain, un vrai déplacement du pouvoir vers les fournisseurs d'accès, que ce soit les Facebook, les Twitter, les plateformes digitales, qui peuvent du coup permettre à tout un chacun, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est vrai, de devenir son propre média. Donc à partir de là, la conséquence, c'est ce que moi j'appelle justement un peu le darwinisme informationnel, c'est-à-dire que tout est disponible partout, va s'imposer, va l'emporter, l'offre culturelle, l'offre médiatique qui va être la plus efficace, la plus adaptée, pour reprendre l'exemple de Darwin. Et ça veut dire donc que les cultures antérieures, si elles sont moins chatoyantes, moins fortes, elles vont se confronter justement à ces choses venues de la contre-culture qui vont être beaucoup plus fortes. Pour être tout à fait concret, moi ce qui me passionne pour revenir aux gilets jaunes et aux mouvements de contestation, c'est comment justement des éléments de la pop culture sont été tout d'un coup et massivement appropriés justement par ces mouvements, par les mouvements politiques aujourd'hui. On parle beaucoup actuellement de la figure du Joker. On parlait il y a quelques années du masque d'Anonymous qui a été popularisé par un film qui s'appelle V pour Vendetta, qui après a été repris par Anonymous, qui a pris Autour de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi justement des figures qui viennent de films eux-mêmes très politiques. Donc on a un cheminement avec, dans ce cadre-là, dans les deux exemples que je donne, des comics ou des bandes dessinées politiques qui sont reprises à leur tour dans le réel, puis qui vont renforcer à leur tour des films très politiques. N'oublions pas, par exemple, qu'avant le Joker, il y avait eu le Batman de Nolan, Dark Knight Rises, que j'ai revu récemment et qui est intéressant parce qu'on n'en parle plus du tout, mais c'est un film qui montre justement comment le peuple se révolte plus ou moins contre les élites pour faire s'effondrer le système. Donc, à la fois, la culture populaire envahit le champ politique et aussi, justement, les grandes œuvres politiques deviennent, les grandes œuvres pop deviennent politiques. Donc, c'est ça justement ce grand mélange, cette disparition de la distinction entre contre-culture et culture principale. C'est une culture commune qu'on a, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de mots, certains parlent de pop culture un peu à l'instant, d'autres parlent de culture geek, d'autres de culture nerd, qui est une espèce comme ça de milieu en perpétuelle évolution, nourri justement par le fait qu'il n'y a plus de barrières, donc tout s'y mélange à la fois, des dernières informations de télé-réalité, la culture classique, malgré tout, qui existe là-dedans, des formes culturelles qui sont inventées, des nouvelles expressions musicales, des personnages de la pop culture qui sont versés là-dedans. Et aujourd'hui, faire de la communication ou être un acteur culturel, c'est essayer un peu de naviguer dans ce marécage. Alors, j'aime pas le mot parce qu'il est négatif, une espèce de grand bouillon de culture, plutôt, je crois que c'est le bon mot, où tout vaut un peu tout. Balzac n'est pas forcément meilleur que le Joker ou que les gens qui l'ont écrit, je ne dis pas que c'est la réalité, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de disparition des complexes qui faisait qu'avant, par exemple, quand on était en politique, on prenait des références sérieuses et inversement, ou que quand on faisait de l'entertainment, on n'était pas sérieux. Il y a une moyennisation, encore une fois, et qui est aussi renforcée par le fait qu'aujourd'hui, le cadre, par exemple, digital, il est très, très normalisant dans sa forme. C'est-à-dire que quand vous postez sur Facebook, vous faites un article sur Google, vous faites un suite, vous avez au bout du compte toujours une petite case que vous remplissez. Et vous allez vous confronter à d'autres cases. Vous n'avez pas la priorité de la une, par exemple, comme dans l'ancien système ou dans le journal Le Monde ou Figaro, qui l'est encore, mais qui était très dominant. Vous étiez une information sérieuse, vous aviez accès à la une. Vous étiez une information moins sérieuse, contre-culturelle, a fortiori, vous étiez relayé dans les dernières pages. Aujourd'hui, la une de Google, la une de Facebook, la une de Twitter, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne sur des logiques autres, d'ailleurs, en partie technologiques, algorithmiques, mais aussi sur le fait que c'est darwinisme, donc c'est ce qui est chatoyant, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui est drôle, plaisant, qui va remonter. Donc, tout s'inverse, tout se reconstruit, et pour reparler un peu de communication, communiquer, c'est aussi se mettre dans un cadre d'une culture partagée, et là, c'est là que ça devient à la fois complexe et passionnant, parce que le cadre est mouvant, il se réinvente tout le temps, et le terrain de jeu est, a fortiori, complètement infini.
Donc, si je résume, encore un petit effort, Raphaël Enthoven, c'est ça, hein, laissez-nous pépier en paix, vous dites. Et puis d'un autre côté, Boubacar Riss, show must go on.
Là, c'est beaucoup de choses très, très différentes. Mais effectivement, j'en étais pris de manière un peu amusée à Raphaël Entoven, qui par ailleurs est un personnage intéressant, puisqu'il est lui-même finalement dans une forme de démocratisation de la culture. Il essaie d'apporter justement une connaissance philosophique à la radio, sur les réseaux sociaux, puisqu'il est venu faire dans ce jeu-là. Et puis, il avait en même temps souvent pris des postures qui étaient un peu réactionnaires, conservatrices. À mon avis, il est aussi, lui, dans une forme de jeu de position. Il avait effectivement, dans le papier auquel vous faites référence, à ce moment-là, critiquer effectivement Twitter en disant que les normes du débat y étaient très faibles, que rien ne s'y passait d'intéressant. Bon, je caricature, mais c'est un peu l'idée. Et je trouve que sur ce genre de position, même si je pense que lui-même durcit le trait quand il dit ça, il y a une manque de réalité par rapport à ce bouillon de culture dont je parlais. Moi, je ne crois pas qu'on reviendra à un état d'avant, et je ne crois pas non plus que l'état actuel il soit pire que ce qui se passait il y a 10, 15 ou 20 ans. Je pense que c'est une chance. Il y a un bouillonnement culturel qui est fascinant. Moi, j'adore perdre mon temps à me perdre, à aller de lien en lien sur YouTube, sur Instagram. On voit beaucoup peut-être de bêtises et choses pas intéressantes, mais on voit aussi une créativité qui est formidable. Et moi, j'ai une passion particulière pour lire les bios des gens, les biographies sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont révélatrices à la fois de codes d'appartenance culturelle, d'inventivité, parce qu'on est sur des petits formats en termes de lettres, donc ça, c'est le côté un peu Oulipo. On n'a pas beaucoup de place, donc on réinvente des formes d'écriture. Il y a une inventivité qui est folle. Donc moi, je pense qu'il faut prendre... qu'on soit communicant, qu'on soit manager, qu'on soit dans le domaine de la culture, de l'intelligence. Moi, je suis universitaire d'origine et j'ai souvent dit avec mes anciens collègues qu'il fallait qu'ils jouent ce jeu de la pop culture, qu'ils aillent sur ces réseaux, qu'ils aillent divulguer. Je trouve, moi, que c'est un exercice qui est extrêmement stimulant intellectuellement et qu'on peut arriver à faire, sans se prendre au sérieux, des choses extrêmement intéressantes en jouant avec tous ces codes qui sont complexes, qui sont tout le temps changeants. Il ne faut pas tomber non plus dans la caricature, bien sûr. Moi, quand il y a quelques années, vous citiez mon expérience au SIG, j'ai été probablement un des premiers en France à essayer justement de faire communiquer le gouvernement en utilisant cette pop culture, cette ex-contre-culture. Donc on a été les tout premiers, en même temps parfois que les Américains, on est souvent déprécié en France, mais on avait à ce moment-là fait des choses intéressantes, à dire « Ok, on va utiliser des références aux séries télé, à Game of Thrones, à Star Wars, pour parler intelligemment de communication. » Mais on l'a toujours fait dans un cadre qui était bordé, en maîtrisant ces codes-là, en faisant appel à nos services à des gens qui étaient des réels passionnés, des vrais fans, et on n'était pas uniquement dans la citation pour faire tâche. Et ça, je pense que c'est effectivement l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Et maintenant, c'est un peu, comme je vois, y compris dans le monde de la communication corporelle, ce que tout le monde fait. OK, c'est la sortie de Star Wars, donc qui qu'on soit, qu'on vende des essuie-glaces ou des barres à chocolater, on va y aller de son poste Star Wars. Moi, je ne pense pas non plus qu'il faille faire ça. Mais je pense qu'il faut effectivement s'imprégner intelligemment de ces nouveaux codes, aller piocher dans ce bouillon de culture. Peut-être que tout ne va pas être bon pour tout le monde, il ne faut pas forcément y aller de sa communication Star Wars, qui qu'on soit. Mais voilà, il y aura toujours des éléments intéressants à aller trouver, que ce soit dans des éléments culturels qui sont repris, dans des façons de faire. Je reviens sur mon histoire des bio Instagram, etc. Moi, je sais que vous êtes un amateur de rap. J'aime beaucoup regarder ce que font les artistes de musique urbaine sur les réseaux sociaux, parce que très souvent, ils ont un temps d'avance. Et grâce à un esprit entrepreneurial, qui est propre, je crois, aussi à souvent ce qu'est la culture urbaine, ce qui est un peu fait de débrouille, ils savent tirer le maximum de ces éléments-là. Et quand vous regardez, par exemple, un artiste comme Booba, il a trop souvent été en France en avance de phase sur l'utilisation justement des outils digitaux. Il a été un des premiers à investir massivement Twitter, il a été un des premiers à quitter Twitter pour Instagram. Et c'est ça aussi qui est formidable, c'est s'imprégner de cette grande pop culture pour trouver des nouvelles manières de communiquer, des nouveaux espaces de communication, des nouveaux codes qui sont qui font beaucoup de bien à des pratiques sinon qui sont quand même extrêmement sclérosées, qu'on soit dans la communication corporate, institutionnelle, culturelle, etc.
La pop culture et la contre-culture comme source d'inspiration pour la communication. Pour l'anecdote, sur Twitter, un professeur de collège disait « C'est la première année que tous mes élèves connaissent l'octogone ».
C'est intéressant, l'octogone.
Intéressant.
Très intéressant, parce que là, on est vraiment au confluent de tout ce qu'on vient d'échanger ces dernières minutes. Tout ça vient d'une référence, comme ne le savent peut-être pas les gens qui vont nous regarder, à un affrontement purement digital et virtuel sur les réseaux sociaux entre deux rappeurs qui affectent d'être dans une posture de gangster rappeur très dur, etc., qui sont Kaaris et Booba. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est arrivé il y a un an. Il y a eu d'abord un affrontement physique dans un aéroport, puis ça a continué dans un affrontement virtuel qui devait déboucher sur un règlement de compte dans l'octogone qui est le champ clos du MMA, qui est une pratique d'art martial qui est très connue internationalement, interdite en France pour le moment, en tout cas très contrôlée. Et Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est que tous ces ingrédients dont je parle, il y a 15 ans ou 20 ans, jamais ça n'aurait pris l'importance que ça a pris aujourd'hui. Parce que, comme vous le sous-entendez, aujourd'hui, l'octogone est devenu une expression que reprend un peu tout le monde sur les réseaux sociaux et même au-delà. On a vu des gens du milieu politique, plutôt des extrêmes, qui font des références à ça pour se menacer entre eux. Quelqu'un comme Alexandre Benalla, qui est, on ne sait pas trop s'il est pop culturel ou politique, mais qui en parlait encore récemment. Je crois qu'il en menaçait un ministre brésilien. Et des affrontements de ce type-là, il y en avait eu dans les années 90 dans le rap français. Il y avait à l'époque, on l'a oublié, mais des tensions entre Paris-Marseille, NTM-IAM. Je crois même qu'il y avait eu l'histoire parfois d'affrontements physiques en marge d'une émission. Qui s'est intéressé? Qui en parlait? Personne. Les fans de rap, peut-être. Encore, ça n'avait pas beaucoup. D'abord, ça n'intéressait pas grand monde. Ensuite, l'information circulait mal. Et puis, enfin, il serait venu à l'idée à personne, par exemple, à, je ne sais pas qui étaient les débats de l'époque, peut-être entre François Bayrou, Nicolas Sarkozy, Lionel Jospin, de reprendre IAM NTM comme référence. Aujourd'hui, vous avez point par point l'inverse, et ça illustre tout ce qu'on vient de dire. Vous avez d'abord quelque chose qui se retrouve à intéresser tout le monde, qui se diffuse extrêmement vite parce que l'affrontement physique est filmé, il est diffusé en temps réel sur les réseaux sociaux. L'affrontement ensuite virtuel, il est relayé, repris dans de la presse généraliste, etc. Et puis, troisièmement, ça atteint un tel niveau que même des responsables politiques en France en font une métaphore ou un mème qu'ils vont reprendre pour mettre en scène leurs propres affrontements. Donc cet exemple-là, je le trouve formidable parce qu'il illustre le basculement dans lequel on a été. Et comment est-ce que, par exemple, une contre-culture double, parce qu'on a le rap et le MMA, deux cultures de mauvais garçons, deux cultures de marge, se retrouvent aujourd'hui à devenir quasiment une expression proverbiale en France, reprise partout, quels que soient les milieux sociaux, quels que soient les contextes. Et ça illustre, à mon avis, parfaitement ce basculement de contre-culture de marge, culture dominante validée par un système, validée pour reprendre un autre terme boubesque, à aujourd'hui, encore une fois, cette espèce de melting pot où tout se vaut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver à faire de la qualité, mais il faut arriver voilà, à jouer avec ça. Et probablement aujourd'hui, si j'avais été en charge de la communication digitale du gouvernement, que, voilà, j'aurais utilisé quelques clins d'œil intelligents si possible à ces affaires d'octogone et autres, peut-être pour parler du sport ou que sais-je d'autre. Mais cet exemple-là, pour moi, il est vraiment canonique des évolutions dont on vient de parler.
Merci Romain Pugnel.